100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Bruxelles, deuxième capitale mondiale du lobbying, accueille désormais un nouvel acteur et non des moindres, la Chine. Encore discret il y a quelques années, Pékin veut contrer les mesures anti-dumping prises par l'Europe et s'assurer un accès à un marché de 500 millions d'habitants. Quelles sont leurs méthodes? C'est le reportage à Bruxelles de Laxmi Lotha.
Parmi les 10 entreprises qui dépensent le plus en lobbying à Bruxelles, on retrouve en 8e position Huawei, fournisseur chinois de technologies mobiles. 3,5 millions d'euros dépensés par an pour parfaire son image auprès de l'UE. Laura Verheek, chercheuse à l'Observatoire européen des entreprises, une ONG qui étudie les lobbies.
Par exemple, on a eu des dîners avec l'ambassadrice chinoise et Huawei dans le salon des présidents au Parlement européen, qui est un des salons les plus prestigieux du Parlement européen. Donc là, c'est un lobbying où on dépense énormément d'argent pour avoir accès direct aux décideurs politiques. Et puis, on a aussi Huawei qui dépense pas mal d'argent dans des entreprises de communication. Donc, pour faire en sorte qu'on parle bien de Huawei à Bruxelles, qu'on ne critique pas Huawei, et que s'il y a critique de Huawei, que Huawei puisse réagir au plus vite.
L'entreprise Huawei sponsorise par exemple des conférences de haut niveau sur la cybersécurité. Objectif, rassurer, alors que les services de renseignement de plusieurs pays, dont l'Allemagne, craignent un espionnage informatique de la Chine à travers ses sociétés. Pour Huawei, les enjeux financiers sont importants avec l'arrivée prochaine de la 5G en Europe. Mais le bureau de l'entreprise pour l'UE à Bruxelles n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. Même réaction de la part de la mission diplomatique chinoise à Bruxelles. Son département économie et commerce accepte de nous recevoir, mais hors micro. La première secrétaire et son adjoint ont pourtant beaucoup à dire, notamment sur le statut d'économie de marché de la Chine. En 2016, l'Union européenne a refusé de reconnaître ce statut à Pékin. Yannick Jadot, eurodéputé vert.
Vous avez la visite de représentants chinois qui viennent vous dire à quel point ils ont la capacité, y compris de rétorsion commerciale. Il y a toujours le chantage à la guerre commerciale et donc vous pourriez être pénalisé par votre prise de position. Donc c'est quand même une relation très très dure.
Le député européen fait partie de la commission du commerce international. Il y a effectivement une méthode chinoise selon lui.
C'est une discussion franche, à la façon qu'ont les Chinois de mener une discussion. C'est à la fois très poli, on met un moment à arriver sur le fond de la discussion, mais à un moment donné, c'est sans détour. C'est sans détour sur, si on n'obtient pas satisfaction, il y aura des répercussions sur vos exportations en Chine. Et après, on se quitte poliment, se serrant normalement la main.
Pour le secrétaire adjoint du département économie et commerce de la mission chinoise auprès de l'UE, ce n'est pas à l'Union européenne de décider du statut de la Chine. La question ne se pose même pas selon lui. Bien sûr que nous sommes une économie de marché, lance-t-il. Grâce à ce statut, la Chine pourrait éviter les mesures anti-dumping, comme les taxes d'entrée. Marie Arena, eurodéputée socialiste.
Ça pourrait faire en sorte que l'Europe perd ses outils de défense commerciale. Quand un produit est identifié comme un produit dumpé, c'est-à-dire que une partie de sa production a été soutenue par un financement qui ne respecte pas la concurrence loyale, eh bien on a la possibilité d'augmenter les taxes d'entrée de ce produit en Europe. Ça veut dire que on corrige l'effet concurrence déloyale.
La Chine joue sur les divisions entre États membres pour parvenir à ses fins, explique l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot.
Il faut comprendre que la Chine intervient très peu finalement au niveau des institutions européennes. La stratégie de la Chine, c'est de diviser les États membres de l'Union européenne. Donc c'est des visites dans les capitales, typiquement pour m'être beaucoup occupé du dumping chinois sur les panneaux photovoltaïques. La stratégie de la Chine n'a pas été tellement de mettre la pression sur les institutions européennes, mais d'aller voir le gouvernement grec pour menacer sur les investissements dans le port du Pirée, d'aller voir les Français pour les menacer sur le vin exporté en Chine, et d'aller voir Angela Merkel sur les machines-outils allemandes qui servent à produire les panneaux photovoltaïques chinois.
Mais les codes pour dialoguer avec les Européens ne sont pas toujours maîtrisés, comme le démontre cette anecdote racontée par Laura Verheek de l'Observatoire européen des entreprises.
Le 27 janvier 2016, un député socialiste européen, Nicolas Caputo, invite ses collègues et invite l'ambassadrice de la Chine à l'Union européenne, Yang Jiangyi. Et donc, pour lui poser des questions par rapport à l'économie de marché, elle répond assez sèchement « Je ne suis pas venue ici pour vous écouter, mais pour que vous, vous m'écoutiez ». Et à la suite de cette altercation, plusieurs députés ont quitté la salle.
La Chine a entamé une procédure devant l'Organisation mondiale du commerce pour être reconnue comme économie de marché par l'UE et les États-Unis.
Turn the power on, the lights are green, and the air is fresh and clean, as I'm driving in my dream machine.
7 ans, c'est le délai que s'est donné la Norvège pour faire passer l'ensemble de son parc automobile au tout électrique. Une prouesse qui peut étonner quand on sait que le pays est aussi le plus gros producteur de pétrole et de gaz d'Europe occidentale. Mais qu'importe, Oslo se veut exemplaire et le prouve au jour le jour par des incitations fiscales et des aménagements concrets qui favorisent les voitures électriques. C'est le reportage sur place de Grégory Tervel.
Il faudra bientôt tendre l'oreille pour entendre la circulation dans le centre-ville d'Oslo. L'essor spectaculaire des voitures électriques s'explique avant tout par les avantages très significatifs offerts à leurs utilisateurs. Possibilité d'emprunter les voies de bus pour éviter les embouteillages, gratuité des parkings et des péages urbains, exemption des taxes à l'achat. Maria est une conductrice ravie.
Rien que sur le péage urbain à l'entrée d'Oslo, je gagne environ 100 euros par mois. Je ne paye pas non plus la vignette auto et les parkings publics sont gratuits. Et puis il y a le carburant que je ne paye plus. J'ai calculé qu'une recharge pleine de ma voiture électrique chez moi me coûtait entre 50 centimes et 1 euro. Vous pouvez comparer avec les pleins d'essence ou de diesel. Pour moi, la voiture électrique, c'est vraiment une très grosse économie.
Une économie qui peut vite atteindre les 500 euros par mois, sans compter la mesure la plus intéressante financièrement. À l'achat, il n'y a pas de TVA ni d'autres taxes pour les voitures électriques ou hybrides, ce qui rend leur prix tout à fait compétitif avec celui des voitures diesel ou essence de même standing. Une voiture neuve sur deux vendue aujourd'hui en Norvège est électrique ou hybride. Christina Bu dirige l'association des voitures électriques en Norvège.
Personne n'avait imaginé que le développement des ventes se ferait aussi rapidement, pas même nous. La raison principale, c'est que les constructeurs automobiles se sont enfin décidés à produire les voitures électriques que les gens voulaient. Des voitures dignes de ce nom avec une autonomie intéressante, car les mesures d'incitation, elles sont là depuis bien longtemps en Norvège. Encore aujourd'hui, la demande est largement supérieure à l'offre. Les listes d'attente sont très longues pour les nouveaux modèles et les voitures électriques d'occasion se vendent immédiatement.
Nous sommes ici dans le premier parking souterrain au monde, entièrement réservé aux véhicules électriques, juste sous la forteresse d'Oslo, en plein centre-ville.
Sture Portvik, chargé de projet à la commune d'Oslo, a la lourde responsabilité de construire tous les équipements nécessaires à l'accueil des véhicules électriques dans la ville.
Chaque place de parking est équipée d'une borne de chargement. Et le mieux, c'est que tout est gratuit. C'est donc un endroit très attractif. C'est toujours plein, comme vous pouvez le constater. Je crois qu'il faut penser autrement maintenant. Prenez les pistes cyclables. Ce sont des biens publics. Personne n'imaginerait faire payer 3 mètres de pistes cyclables à chaque cycliste qui l'emprunte. Eh bien, pour les équipements nécessaires aux voitures électriques, c'est pareil. Donc oui, au début, cela représente un investissement. Mais vous savez, à la mairie d'Oslo, le budget actuel pour les pistes cyclables est 3 fois supérieur à celui pour les voitures électriques. Et pourtant, on investit beaucoup sur les véhicules électriques.
L'effet sur les réductions d'émissions de CO2 est d'autant plus intéressant que la Norvège produit toute son électricité de manière propre grâce à l'énergie hydraulique. Lars Andreas Lunde est secrétaire d'État sortant au ministère du Climat et de l'Environnement. Il réfute l'idée selon laquelle la Norvège s'achèterait une image verte avec cette politique tout en continuant de beaucoup polluer avec son industrie pétrolière.
En tant que pays exportateur de pétrole, c'est vrai que nous allons à l'encontre de nos propres intérêts avec cette politique, puisque le secteur du transport est notre principal acheteur de pétrole. Mais nous pensons qu'il est important que la Norvège prenne elle aussi sa responsabilité en matière de climat. Nous savons que pour atteindre nos objectifs climatiques, il faut s'attaquer au secteur du transport. Cette politique d'exemption de taxes pour les véhicules électriques représente un manque à gagner fiscal pour l'État, mais c'est surtout parce que nous taxons beaucoup les voitures à la base. En fait, nous sommes en train de transférer les taxes sur les véhicules qui polluent.
La classe politique norvégienne promet que les mesures d'incitation resteront en place jusqu'à ce que les véhicules électriques deviennent par eux-mêmes plus rentables que ceux à énergie fossile, de sorte que l'électrique sera toujours moins cher pour l'usager. D'après Lasse Fridström, chercheur à l'Institut de l'économie du transport à Oslo, ce modèle norvégien est transposable ailleurs.
Il est certain que la Norvège est dans une position très enviable du fait que son budget national est, grâce au pétrole et au gaz, largement excédentaire depuis de nombreuses années. Donc l'État norvégien peut se permettre de perdre des revenus fiscaux et aucun autre pays n'est dans cette situation. Mais les autres États peuvent très bien introduire des taxes sur l'achat des voitures, peut-être pas aussi élevées qu'ici, pour financer des réductions ou des exemptions de ces mêmes taxes pour les véhicules électriques. C'est grâce à cette politique fiscale que la Norvège réussit la transition. Et ça, n'importe quel pays peut le faire.
Tous les partis politiques norvégiens se sont engagés sur l'objectif que plus aucune voiture neuve, diesel ou essence, ne soit vendue en Norvège en 2025. Le tout électrique dans seulement 7 ans, plus personne aujourd'hui ne pense que c'est irréaliste.
Un pont entre l'Irlande du Nord et l'Écosse, notamment pour contrer les effets désastreux du Brexit qui instaurerait une frontière étanche entre le Nord et le Sud de l'île. L'idée qui aurait paru saugrenue il y a quelques années est désormais débattue, même si elle est difficilement faisable. En Irlande, Julien Lagache.
Plus qu'un pont, il s'agirait d'un trait d'union entre deux parties reculées du Royaume-Uni qui ont une culture celtique en partage, et seule une trentaine de kilomètres sépare l'Irlande du Nord de l'Écosse, deux régions qui manquent aussi d'investissement. C'est en tout cas le plaidoyer du professeur Alan Dunlop. Ce qu'il appelle le vrai Nord pourrait bénéficier de retombées économiques importantes avec un trafic touristique et marchand en hausse grâce à un pont routier et ferroviaire qui permettrait une liaison terrestre directe entre Londres et Dublin, un peu sur le modèle du pont de l'Øresund entre le Danemark et la Suède. Et dans le cadre du Brexit, l'idée pourrait avoir du sens, selon Alan Dunlop. Cela éviterait à l'Irlande du Nord de se retrouver enclavée à la frontière de l'Union européenne. Sur le papier, la perspective est alléchante. Pourtant, il n'y a pas grand monde pour la défendre, hormis les unionistes nord-irlandais, assez sensibles à la perspective d'un rattachement physique et symbolique à la Grande-Bretagne. En 2015, le parti unioniste démocrate souhaitait même une estimation officielle d'un tel chantier, actuellement évalué autour de 20 milliards d'euros. Mais pour une écrasante majorité d'experts ou d'élus, ce viaduc ne sera qu'un rêve car son coût serait bien supérieur aux éventuels bénéfices, d'autant que le chantier pourrait s'avérer très compliqué à cause du relief de la côte écossaise où le réseau routier est aussi très peu développé, et surtout à cause de la profondeur des eaux qui, par endroits, rendrait très improbable la mise en place de piliers porteurs. Le pont entre l'Écosse et l'Irlande du Nord n'est donc pas pour demain, mais l'idée ne risque pas de s'évaporer, car le projet de relier les îles britanniques ne date pas d'hier, avec plusieurs scénarios envisagés puis abandonnés, dont un pont entre le Pays de Galles et l'Irlande, c'était en 1799.
Initiative citoyenne et apolitique en Hongrie. Il s'agit cette fois de sécurité routière. L'an dernier, 2500 piétons sont morts dans le pays, renversés par une voiture. Des accidents d'autant plus insupportables qu'ils se sont déroulés alors que les piétons traversaient sur un passage protégé. Pour en parler, on retrouve Florence Labruyère à Budapest. Un habitant de la capitale a donc mis au point un système pour renforcer la sécurité des piétons.
Oui, il s'agit de Sándor Fülé. Il est est ingénieur et il habite à Gödöllő, une ville de 30 000 habitants dans la banlieue de Budapest, qui est traversée par la route nationale. Une route où il y a beaucoup de circulation, car les automobilistes l'empruntent pour aller travailler à Budapest et pour en revenir le soir. Et pour traverser cette route, eh bien, il y a peu de feux rouges. En revanche, il y a des passages zébrés. Mais voilà, effectivement, l'an dernier, dans cette petite ville, 4 piétons sont morts après avoir été renversés sur ces passages zébrés.
Et la vitesse n'est pas limitée dans cette ville ?
Oui, elle est limitée à 50 km/h, mais les automobilistes ne ralentissent pas suffisamment et la police ne surveille pas ces passages zébrés. Elle ne sanctionne pas non plus les conducteurs. Alors, pour améliorer la sécurité des piétons, Chandor Fulet a eu l'idée d'installer des drapeaux de chaque côté de la route. Avant de traverser, le piéton prend un drapeau, il le brandit pour être bien visible pendant qu'il traverse et il le repose de l'autre côté de la rue. Ce sont les habitants de Gödöllő qui ont fabriqué ces drapeaux de couleur jaune, doublés d'un tissu réfléchissant pour qu'il soit bien visible la nuit. Et Chandor a installé ce système sur les 3 grands passages zébrés de sa ville.
Et l'exemple, Florence, se répand comme une traînée de poudre.
Oui, dans 16 autres villes, les habitants ont mis en place ces drapeaux. L'idée séduit vraiment beaucoup les Hongrois.
Mais c'est là que la bureaucratie intervient et leur met des bâtons dans les roues.
Eh bien écoutez, la bureaucratie leur a mis des bâtons dans les roues. L'initiative n'a pas du tout été appréciée par l'entreprise d'État qui s'occupe du réseau routier. Elle a déclaré qu'elle allait imposer des amendes. Ensuite, elle a indiqué que des drapeaux pourraient peut-être être mis en place, mais à certaines conditions. Et elle a donné une liste de critères tellement longue que cette liste est impossible à respecter. Alors, la mort dans l'âme, Chandor, l'inventeur, a retiré les drapeaux des passages zébrés. Il a publié une vidéo où il disait qu'il ne voulait pas avoir d'amende et qu'il n'avait pas envie de se battre contre des moulins. On ne peut rien faire dans ce pays, a-t-il ajouté. Et puis, l'histoire a suscité un tollé dans les médias. Ces derniers ont souligné que l'État ne fait rien pour améliorer la sécurité routière, alors que ce rôle lui incombe. Et quand les gens se débrouillent pour faire le travail de l'État, eh bien, ils sont punis. En Hongrie, beaucoup de citoyens ont le sentiment que l'État est incompétent et malveillant, et cette histoire n'a fait que renforcer leur sentiment. Mais, coup de théâtre, la société du réseau routier est revenue sur sa décision. Elle a réalisé que cette histoire était très mauvaise pour son image et que les drapeaux étaient vraiment très populaires. Alors elle a décidé de les autoriser sans faire payer les habitants.
Merci Florence Labruyère à Budapest. Il y a 100 ans, tout juste, le peintre Gustav Klimt s'éteignait. Ses peintures, comme le baiser, sont désormais indissociables de Vienne et contribuent largement à son rayonnement. Klimt, richement consensuel et décorativement vénéré, on sait moins qu'à la fin du siècle dernier, son mouvement artistique sécessionniste a commencé par une peinture jugée scandaleuse et censurée à Vienne, Céline Béal.
Un Thésée musclé et nu qui terrasse le Minotaure de la tradition artistique. C'est ainsi que Gustav Klimt représente en 1898 le mouvement qu'il vient de lancer en faisant sécession de la Maison des artistes de Vienne. Le sexe du moderne Thésée est certes caché sous une feuille de vigne, mais celle-ci est un peu trop renflée, l'œuvre est donc censurée. Pourtant, on ne peut pas dire que les autorités étaient des ennemis de l'artiste. Provocateur certes, mais qui voulait aussi promouvoir un art proprement autrichien. L'empereur François-Joseph lui-même fera d'ailleurs une apparition à la première exposition des artistes de la sécession. Dans l'effervescence économique et intellectuelle de la fin de siècle, les œuvres du maître du modernisme sont également fort appréciées de la nouvelle bourgeoisie, en partie juive, qui a bien besoin de décorer les palais qu'elle érige en ville. Gustav Klimt est déjà bien connu lors de sa mort en 1918, l'année où s'éteint aussi l'Empire austro-hongrois. Pour les Autrichiens, le peintre qui a utilisé tant de dorures devient alors le symbole d'un âge d'or révolu. Aujourd'hui, ces tableaux s'arrachent encore, et à prix d'or justement. En 2006, 5 d'entre eux, pillés par les nazis, puis restitués à leurs propriétaires, et enfin mis aux enchères, ont atteint, à eux 5, les 328 millions de dollars.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur RFI. RFI.